La Turquie, le trou d'air.
Le sommet du G20 à Hangzhou en Chine se termine dans quelques heures. Hier, la journée a été marquée notamment par cette rencontre entre Barack Obama et le président turc Recep Tayyip Erdogan.
La rencontre bilatérale intervient après que les relations entre les deux pays se sont tendues. Les remarques de la Maison-Blanche et du département d'État pendant la répression qui a suivi la tentative de coup d'État ont fortement déplu à Ankara. Et la sourde oreille de Washington concernant l'extradition de Fethullah Gulen menace un partenariat dans la région essentiel pour les Américains.
La Turquie n'a jamais été réputée pour être un pays simple et calme. Cependant, la situation y a rarement été aussi instable. Erdogan, le président, donne des coups de boutoir qui témoignent davantage d'un affolement que d'une stratégie progressive. En Syrie, les troupes turques viennent ainsi de franchir la frontière le 24 août pour en expulser l'organisation État islamique et surtout pour empêcher les Kurdes d'atteindre la continuité territoriale à laquelle ils aspirent depuis un siècle. Pour la Turquie, le danger primordial, l'urgence, est la constitution de ce bloc géographique kurde. Si on regarde un peu plus loin dans la région, Erdogan aurait voulu, au nom du souvenir de l'Empire ottoman, retrouver une identité moyenne-orientale, mais ses voisins arabes ne peuvent être, en l'occurrence, de véritables partenaires. Resterait l'espace musulman et turcophone des ex-républiques soviétiques, mais là où Erdogan se sentirait volontiers sultan, il se heurte à la vigilance de Poutine, qui se voit bien en nouveau star. Il a dû s'employer à l'amadouer lors d'une récente visite à Moscou, qui témoignait sur toute sa faiblesse. Une guerre à l'intérieur, plusieurs guerres virtuelles ou non à l'extérieur, ça fait trop d'ennemis numéro un. Et pendant ce temps, les alliés occidentaux se demandent de plus en plus si la Turquie est vraiment l'ami de ses amis, de pivot qu'elle était. Elle devient trou d'air.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Philippe Moreau de Farge, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors en matière de géopolitique, de relations internationales, vous êtes le grand truchement. Vous écrivez même en la matière pour les nuls.
Oui.
Enfin, où vous accordez votre crédit aux nuls.
Oui, j'ai écrit 3 livres pour les nuls. La géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls et l'histoire de l'Europe pour les nuls.
Bah, c'est parce que vous étiez près de la retraite, autrement. Non,
j'en suis très fier. J'en suis très fier.
Philippe Moreau de Farge, on va commencer en faisant bien sûr de l'histoire, ouais. Puisque vous avez accepté de prendre en marche notre émission. Pas de Turquie, rappel pour les nuls, sans Kemal Atatürk,
oui, oui.
Parce que la nation turque n'existait pas dans l'Empire ottoman.
Oui, exactement. Enfin, il y avait une identité turque, mais néanmoins, ce qu'on appelle la Turquie moderne, l'État turc, c'est la création d'un homme. Mustafa Kemal, dans les années 1920-1923, il a créé véritablement par la force, contre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, il a bâti cette Turquie qui n'existait pas. Donc on voit bien la hantise des dirigeants turcs à l'heure actuelle. Ils ont un État tout jeune, qui est menacé, et qui a été vraiment accouché par la force et par la guerre.
Atatürk n'est pas là pendant la Deuxième Guerre mondiale, où, se souvenant des difficultés de la première.
Exactement.
La Turquie est extrêmement, comment dire, attentiste et ne choisit guère son camp.
La Turquie est neutre, elle ne s'engage pas. Et d'ailleurs, la Turquie va servir de plaque de rencontre entre les différents ennemis. Vous connaissez peut-être l'affaire Cicéron, qui se passe à Ankara, où un valet de chambre, qui est le valet de chambre de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Ankara, vole des secrets concernant notamment le débarquement pour les vendre aux Allemands. Donc la Turquie va rester neutre. Pourquoi ? Ils n'ont pas oublié d'abord leur jeunesse, et puis ils n'ont pas oublié que la Première Guerre mondiale avait été un piège pour l'Empire ottoman, qui en est sorti détruit, dépecé par les vainqueurs.
Alors maintenant, la Turquie a la réputation d'être l'allié des Occidentaux.
Tout à fait.
Comment devient-elle l'allié des Occidentaux et fait-elle ce choix après la Deuxième Guerre ?
Alors, elle devient l'allié des Occidentaux parce que le paysage international se simplifie à la fin des années 40, c'est la guerre froide. Il y a deux grands ennemis, les États-Unis et l'Union soviétique. Et à ce moment-là, la Turquie, qui est tout près de l'Union soviétique, qui a des rapports très difficiles avec la Russie, puisque la Russie a voulu détruire l'Empire ottoman. Donc la Turquie doit véritablement choisir son camp. Et elle sent qu'il lui faut choisir son camp. En outre, n'oubliez pas, il y a un État qui est toujours mis en parallèle avec la Turquie, Turquie qui est la Grèce. Et à la fin des années 40, après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce qui a été occupée par les Allemands fait l'objet d'une terrible guerre civile entre communistes et royalistes. Et la Turquie est un peu prise dans ce système. Donc elle doit choisir son camp et elle choisit bien sûr le camp occidental.
Les Turcs au fond ont plus de sympathie pour l'OTAN que les Grecs. Les Turcs adhèrent à l'OTAN en 1951.
Exactement.
Ici c'est un reportage qui date d'une dizaine d'années plus tard. Télévision française, Charles Finalteri.
Engagée avec l'Occident, la Turquie l'est aussi sur le plan de la défense. Regardez cette carte, 2630 km de frontière avec 6 pays. C'est en Asie la sentinelle avancée du monde occidental. URSS. L'Iran, pas de problème, c'est un allié, un pays musulman mais non arabe comme la Turquie. L'Irak, en revanche, un pays arabe qui reproche, comme la Syrie, la reconnaissance d'Israël. Un rôle de vigilance donc pour l'armée turque, une armée forte en nombre et en équipement, dotée par l'OTAN de moyens tactiques modernes comme ses F-104 MAD in USA. Elle compte aujourd'hui 14 divisions et passe pour l'une des mieux entraînées de l'Europe. Même sa cavalerie, qui peut paraître anachronique, a son utilité dans la surveillance des frontières, souvent inaccessibles aux blindés. Absorbant 40% du revenu national, consciente de sa force, de sa position à l'égard de l'Occident, quelle place pouvait-elle prendre au sein de la nation ?
Une place centrale, monsieur Finalteri, et c'est pas vous qui allez dire le contraire, Philippe Moreau de Farge. C'est une armée qui est réputée pour être la seconde de l'OTAN, aujourd'hui encore.
Oui, en termes d'effectifs, hein, n'oubliez pas, c'est une armée de conscription, alors que les autres pays de l'OTAN ont abandonné la conscription. Donc en termes d'effectifs, c'est une armée qui n'a jamais véritablement fait la guerre, sauf qu'elle a réoccupé, je vous rappelle, la Chypre,
74.
La partie nord de Chypre. Donc c'est une armée qui s'est construite dans la guerre civile et pour assurer les frontières de la Turquie, mais pour le moment, c'est pas une armée qui a prouvé sur le plan international qu'elle était une grande armée. Une armée, ça se monte par des victoires.
Bon, enfin, 800 000 hommes aujourd'hui, 40 000 officiers. Alors, les officiers, ils jouent, monsieur Finalteri le disait, un rôle central dans la vie politique. On ne va pas raconter la vie politique turque, on peut simplement dire qu'elle est marquée tous les 10 ans par un coup d'état militaire.
Exactement. Si vous voulez, l'armée est la gardienne, d'ailleurs à l'époque où parle Charles Finalteri, l'armée est la gardienne, je dirais, de la constitution turque. Il y a un conseil des militaires qui surveille le bon fonctionnement de la constitution turque. Alors Erdogan a changé tout ça, mais il y a véritablement, l'armée est le pilier de l'état turc. Et là, on voit bien les contradictions d'Atatürk. Atatürk voulait faire un état moderne, un état européen, néanmoins cet état restait fondé sur la primauté du militaire.
Les coups d'état sont l'objet d'informations détaillées aux États-Unis.
Exactement.
Et de l'approbation.
Bien sûr.
Des États-Unis.
Bien sûr. Ah ben, si vous voulez, attendez, n'oubliez pas la position qu'a la Turquie face à l'Union soviétique. Et n'oubliez pas quand parle Charles Finalteri, n'oubliez pas, l'Iran est encore un allié de l'Occident, mais en 1979, l'Iran bascule avec Khomeini. Et l'Irak, ce qu'évoque le reportage de Charles Finalteri, l'Irak, qui était un allié de l'Occident en 58, bascule dans le neutralisme agressif et plutôt anti-occidental.
Est-ce qu'on tourne les pages très vite de l'histoire du monde pour les nuls, Philippe Moreau de Parge. Passons à un deuxième moment, si vous le voulez bien, la fin des années 80 avec la chute de l'Empire soviétique. Ouais. Alors là, la place de la Turquie est modifié, rendu peut-être davantage secondaire.
Oui et non. Elle n'est plus l'élément essentiel face au grand ennemi qui est l'Union soviétique. Et je dirais que l'Union soviétique est remplacée par la Russie. Mais pour la Turquie, c'est un problème grave parce que la Russie est quand même l'un des grands ennemis de la Turquie puisqu'elle a voulu, puisque la Russie a toujours eu une volonté de dominer les détroits, premièrement. Mais la Turquie reste essentiel au Moyen-Orient. N'oubliez pas que même au moment de la chute de l'Empire soviétique, le Moyen-Orient est un enjeu très difficile, notamment pour les Américains. Donc la Turquie reste quand même un partenaire essentiel, mais dans une autre perspective, qui est la stabilité du Moyen-Orient. Non plus contrer la menace soviétique, mais stabiliser le Moyen-Orient.
Alors un homme va surgir à cette époque-là, qu'on a oublié, parce qu'il est mort prématurément en 1993. Il appartient à l'origine à la technostructure libérale, mais aussi au monde de l'armée, qui l'a placé à des postes de responsabilité. Mmh. Et puis, il va bénéficier de l'élection des Turcs, qui s'appelle Turgut Özal.
C'est un grand bonhomme, un grand bonhomme.
Vous dites ça parce qu'il était hyper européen, hyper occidental.
C'est exact. Mais si vous voulez, c'est un homme de la transition. Si vous voulez, c'est un homme qui comprend que la Turquie ne peut plus rester cet état militaire, que la Turquie doit devenir un état moderne. Et il va contribuer, il va essayer de faire ce passage qui va d'ailleurs mener vers Erdogan et au problème d'aujourd'hui.
Oui.
Mais je dirais qu'on peut dire que Turgut Özal, qui est un peu oublié, vous avez raison, est un grand homme dans la transition turque vers la normalisation de la Turquie.
Et il se tourne vers l'espace naturel qu'est l'Europe.
Tout à fait.
Il dit sur les Kurdes qu'on pourrait peut-être négocier avec eux.
Il semble-t-il, il a du sang kurde. Il a un quart ou un moitié de sang kurde.
Il dit aux Arméniens que sans aller jusqu'à la reconnaissance du génocide, on pourrait peut-être...
Tout à fait.
Et quand surgissent des crises qui sont déterminées par le comportement de l'hyperpuissance, on appelait comme ça les États-Unis,
oui, tout à fait.
En 1990, au moment de la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein, qui est en train de se dessiner, voici ce qu'il déclare.
Et puis un pays est en première ligne dans le dispositif occidental, c'est la Turquie, un pays charnière qui veut depuis longtemps se rapprocher de l'Europe et qui est membre également de l'OTAN. Pour l'instant, la Turquie a respecté tous ses engagements. Et
Turgut Özal est un homme serein. En pleine crise du Golfe, il inaugure une autoroute, compte bien tirer le plus d'avantages possible de la situation actuelle.
Cette situation de crise montre bien que la Turquie est un membre de la famille occidentale. Et en même temps, elle en est une bonne amie. Et elle a de bonnes relations avec le reste du monde islamique, y compris les Arabes.
Délaissée depuis le réchauffement Est-Ouest par ses partenaires de l'OTAN, la Turquie de Özal rappelle ainsi qu'au Proche-Orient menacé par la guerre, elle demeure le premier rempart de l'Occident.
Tout d'abord, je dois considérer les intérêts premiers de mon pays. Mais en même temps, je dois aider tous nos pays amis pour résoudre cette crise, autant que nous pouvons le faire, sans entrer dans une guerre totale. Mais parfois, la dernière extrémité, c'est la guerre.
Mais en cas d'échec et d'attaque de l'armée américaine, la base turque de l'OTAN d'Incirlik pourrait être le point de départ des avions de l'US Air Force pour aller bombarder Bagdad.
Incirlik a eu ce rôle.
Exactement. Ce rôle très important. Elle a eu ce rôle à la fois pour bombarder Bagdad, et elle a eu aussi un rôle très important en 90-91 pour aller aider les Kurdes. N'oubliez pas que Saddam Hussein, vaincu par les Américains, va accroître sa répression contre les Kurdes au nord de l'Irak. Et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle le fameux droit d'ingérence. Au nom du droit d'ingérence, les Américains, les Britanniques et les Français vont intervenir pour empêcher l'armée irakienne de frapper les Kurdes, et il y aura la base américaine de Turquie sera utilisée.
Donc ça, c'est sous l'influence des Américains qui ne cherchent pas à constituer un Kurdistan avec une continuité territoriale, mais à empêcher un certain nombre de débordements.
Exactement. Vous voyez, le problème est le suivant, c'est que la Turquie est dans une position très difficile, c'est-à-dire que d'un côté, la Turquie doit s'entendre avec le Moyen-Orient. En même temps, elle est face à un Moyen-Orient complètement insaisissable, en ébullition permanente. Donc elle essaye de se... Et en même temps, elle sait que sa grande carte, c'est, comme l'a dit Charles Filatier, la sentinelle de l'Occident au Moyen-Orient.
Alors, nous sommes ici à une époque qui va s'achever. Exactement. Au milieu des années 90. Ouais. Turgut Özal est mort en 93. Mmh. Et puis, avec le crépuscule de la vieille classe politique turque, qu'on peut dater de l'an 2000 ou de l'an 2002, on va passer donc à une autre époque. Nous tournons la page avec un rocker, peut-être le plus grand rocker turc. Il s'appelle Teoman. Il a commencé à enregistrer en 1996.
Beter olacak her şey. Dünya zaten yalan dolan. Kaderden kaçamaz insan. Vurulmuş kalbinin ortasından. Aynaya bakmam kendimi bilmem hayat. Serseri doğdum, serseri öleceğim. Bunlar güzel günlerimiz. Daha beter olmaz.
çakan şey. Dünya zaten yalan dolan, kaderden kaçamaz insan. Vurulmuş kalbinin ortasından aynaya bakmam, kendimi bilmem. Hayat acıtınca dünyayı sevmem. Ne yazık ki tek tabanca, serseri seri öleceğim.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Philippe Moreau de Farge, chercheur à l'IFRI, qui longtemps a co-dirigé l'excellente publication Ramsès et qui est maintenant un pharaon de la géopolitique. Pour les nuls, la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. On parle tout simplement de la Turquie, oui, de tous les dangers aujourd'hui.
Exactement. Hein,
nous sommes maintenant arrivés aux années 2000. Oui. 2002, Erdogan va prendre le pouvoir à la tête d'un parti islamiste. Il y a eu déjà un parti islamiste qui a pointé le nez dans les années 1970. Le dernier coup d'État militaire de 1980, il y a un coup d'État tous les 10 ans, disait-on, a été différent des précédents en ce sens que les militaires ont fortement encouragé l'enseignement religieux.
Tout à fait. Parce qu'ils sentaient bien que peut-être que la société turque était en train de changer et que l'islam sera un élément de cohésion de cette société.
Et puis les États-Unis, là encore, n'étaient pas contre.
À l'époque, je vous rappelle qu'on soutient Ben Laden en Afghanistan. Je vous rappelle que Ben Laden a été un peu nourri dans le sein des États-Unis comme soutien aux talibans en Afghanistan.
Alors Erdogan, au départ, il est souvent présenté ici comme une sorte de démocrate chrétien. Mmh. Et en effet, il a tendance à démocratiser l'État, mais c'est une démocratisation défensive pour se protéger de ses adversaires.
Tout à fait. Mais c'est vrai que, vous voyez, face à cet islamisme, malgré tout, aussi l'Occident cherche à se rassurer. Il faut se rassurer. Il y a donc un islamisme raisonnable, modéré, comme il y a eu la démocratie chrétienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il y a cet islamisme moderniste. Et c'est vrai que, quelque part, Erdogan est aussi un moderniste. C'est-à-dire qu'il veut que la Turquie soit une grande puissance économique, qu'elle soit présente dans les secteurs de pointe, etc.
Donc, croyez-vous à des religions modérées? Est-ce qu'on est amoureux modérément?
Non.
On est amoureux sans l'être, mais quand on est amoureux, on l'est extrêmement.
Cher Jean-Lebrun, il faut être optimiste, il faut bien voir que les religions, notamment en Occident, en Europe, ont accepté la laïcisation. Vous voyez, il y a quand même, on peut espérer, espérons-le, que l'islam va se laïciser, va accepter la modernité.
Alors maintenant, le parti d'Erdogan en est venu à un nouveau stade, je ne sais pas comment on peut le définir, parce que c'est un mélange assez complexe de conservatisme religieux, de promesses de consommation à crédit, avec un grand goût pour les infrastructures,
les tunnels, les ponts, c'est le prestige. Ouais. Ça résume. Erdogan, c'est d'abord un nationaliste.
Ouais.
Je crois que il faut comprendre déjà. Comme Khomeini était d'abord un nationaliste.
Et puisqu'on nous parle de roman national, lui, il ressuscite. On parle de ça en France beaucoup. Il ressuscite le roman ottoman. Ouais, alors ça donne dans le soft power, ça donne la série télé Soliman, qui a eu tant de succès dans les Balkans et qui chante la gloire du sultan conquérant. Et puis un film à la gloire de Mehmet II qui va conquérir Constantinople contre les méchants chrétiens. Et d'ailleurs, régulièrement, Erdogan, maintenant, fait célébrer par des sons et lumières en grand costume cet anniversaire.
Étrange, fascinant pays que celui qui, par cette seule évocation des janissaires d'antan, peut se permettre un retour en arrière de plus de 5 siècles. Cette forteresse qui domine le Bosphore, c'est celle de Rumeli-Izari. Elle date de 1452, elle avait été construite, dit-on, en 6 mois. Et c'est de là que Mehmet le Conquérant partit un an plus tard à la conquête de Constantinople pour en faire Istanbul, pour en faire la capitale d'un nouvel empire ottoman.
Mes valeureux guerriers, nous bénéficions d'un passé déjà plein de victoires. Nous avons conquis tant de cités puissantes et de forteresses. Grâce à vous, nous avons franchi tant de montagnes escarpées. Nous avons brisé l'un après l'autre les sabres pointés sur notre poitrine pour nous annihiler. Nous avons souffert et sommes morts au combat pour l'amour de la guerre divine. Aujourd'hui, le devoir qui nous incombe est de prouver que nous sommes des soldats dignes de nos ancêtres. Et surtout, n'oubliez pas que les plus grandes conquêtes se font avec la foi, mes frères. Je sais que nous sommes capables de franchir ces murailles grâce à notre bravoure. Alors demain, nous ouvrirons les yeux, non pas sur un spectacle de désolation, mais sur un jour béni des dieux qu'aucun fidèle n'aura vu jusqu'ici. Nous ne goûterons pas aux douleurs de devenir martyrs tant que nous n'aurons pas obligé nos ennemis à se prosterner devant nous. Allah Akbar.
Alors ça, c'est le film de Farouk Aksoy. Après le coup d'État manqué du 15 juillet, ce cri a retenti constamment en Turquie. Le soir, les haut-parleurs dont on a augmenté le volume appellent cet été à des veillées. Pendant ces veillées, on crie sans cesse à Allahu Akbar. Et en même temps, et c'est ça qui est surprenant, on chante des chants de l'époque de Mustafa Kemal et du début de la République. Erdogan, c'est un mixte.
Ben oui, Erdogan, il peut pas faire autrement. Il est l'enfant direct de Mustafa Kemal. Il est ce pays qu'il essaye de maintenir, qu'il essaye de défendre. C'est la Turquie de Mustafa Kemal. Donc il peut pas nier, si vous voulez. Et puis Mustafa Kemal, c'est un homme tellement immense. C'est le père avec un grand P. Alors on peut toujours assassiner le père, mais là, il est vraiment indestructible, ce père. Parce que tuer le père, c'est tuer la Turquie moderne. Donc il y a un problème. Donc il essaye de trouver un équipe. Au doute, il faut ajouter, parce que Erdogan, il y a une véritable dérive du régime. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, c'est un régime assiégé, c'est un État qui peut disparaître, c'est un État qui, probablement, pas tout à fait à tort, se ressent menacé dans son existence même, avec le problème kurde qui ne disparaîtra pas. Je vous rappelle
alors
que...
on commence par le problème kurde, l'ennemi primordial, l'ennemi numéro un, pas pour Turgut Özal naguère, mais... constamment, depuis que les alliés, à l'issue de la Première Guerre mondiale, n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis des Kurdes, ce sont les Kurdes.
Mais pour une raison simple, c'est que les Kurdes représentent, ça se discute, mais au moins 20% de la population turque. Et s'il y a un Kurdistan indépendant, tout l'est de la Turquie disparaîtra. Vous savez, c'est un peu le problème. Je dirais, le Kurdistan, c'est un peu leur Alsace-Lorraine. Vous me direz, la différence, c'est que nous, il y avait l'Allemagne derrière l'Alsace-Lorraine. Derrière les Kurdes, il n'y a que les Kurdes. Mais ils sont redoutables, ils sont extrêmement dangereux. Et en outre, je vous rappelle qu'il y a trois ou quatre, il y a la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak, dont l'intégrité territoriale est menacée par ce problème kurde. Donc le problème kurde est incontestablement le problème numéro un et la menace numéro un pour Erdogan. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc quand il s'attaque à la Syrie fin août, c'est évidemment d'abord aux Kurdes qu'il pense.
Mais c'est là où Erdogan est plein de contradictions. La logique d'Erdogan, c'est de s'entendre avec Bachar el-Assad. Pourquoi ? Quel est leur intérêt commun ? C'est le respect des frontières. À nouveau, Bachar el-Assad, il veut maintenir la Syrie telle qu'elle existe. Erdogan, la même chose pour la Turquie. Et c'est très curieux qu'il soit radicalement ennemi. Là, il y a quand même des choses parfois énigmatiques.
C'est quand même un homme qui donne sans arrêt des coups de boutoir. On a résumé en un son unique trois épisodes qui ne sont pas nécessairement avantageux pour Erdogan parce qu'il va sortir de chacun d'entre eux assez piteux. Le premier, on n'a pas parlé d'Israël. Erdogan, cherchant à retrouver une identité moyenne-orientale, fait arborer à la Turquie le drapeau palestinien et expédier à Gaza un bateau mi-humanitaire, mi-publicitaire, qu'Israël arraisonne, évidemment, sans ménagement, 2010.
Israël ne voit, ne ressent et n'entend rien de ce qui se passe. Israël agit comme un enfant gâté. Les tanks d'un côté répandent la mort et eux, de l'autre côté, dansent le bonheur. En piétinant le droit international, en écrasant les droits de l'homme, Israël continue de se rendre coupable de terrorisme d'État. Et en dehors de nous, pas un pays ne lui demande de s'arrêter.
Année suivante, vous évoquiez les rapports avec Bachar el-Assad, qui devraient être corrects au nom de la nécessité ou de l'histoire. Et ben voilà que Erdogan lui reproche son comportement sans mesure, et puis aussi l'exil massif de réfugiés syriens vers la Turquie. Il s'adresse ainsi, nous sommes en 2011, à Bachar.
Si tu veux voir quelqu'un qui a lutté à mort contre sa propre population, regarde l'Allemagne nazie, Hitler, Mussolini ou la Roumanie de Ceausescu. Pour le salut de ton peuple, de ton pays et de ta région, quitte désormais le pouvoir.
Troisième exemple, 2015, le voilà qui défie la Russie quand un avion russe est abattu par la Turquie, dont cet avion aurait violé l'espace aérien.
Un certain temps après l'événement, j'ai appelé M. Poutine, mais jusqu'à maintenant, M. Poutine n'a toujours pas répondu à mon appel. Si, en tant que pays, j'ai les preuves, j'ai les documents, tout ce qu'il est nécessaire, tout ça c'est clair. Et si, en fonction de ces preuves et de ces documents, si malgré ça, qu'est-ce que pense la Russie? Moi j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. Par exemple, pour le moment, il y a toutes les données dans mes stations de radar. Et en fonction de ces données de radar, est-ce que M. Poutine a les mêmes éléments en main? Ou est-ce que ses responsables ont ces domaines? Moi j'ai toutes les données qui viennent de mes radars. J'ai toutes les conversations avec les pilotes. Mise en garde 10 fois pendant 5 minutes, j'ai les enregistrements de toutes ces conversations. Et nous les publions dans nos télévisions.
Alors ça c'est pour la gloriole, pour la montre, et puis il s'avère au mois d'août, quand il vient en Russie, qu'il s'excuse auprès de Poutine.
Parce que Erdogan donne le sentiment, d'ailleurs comme beaucoup de ces hommes tout-puissants, d'osciller entre une logique idéologique, une espèce de logique d'orgueil, j'affronte la Russie, j'affronte Bachar el-Assad, et puis un certain réalisme. Là le rapprochement avec la Russie, il est dicté par le réalisme. C'est clair que Erdogan se rend compte qu'il ne peut pas multiplier les ennemis. Il faut à un moment donné choisir ses ennemis. Et donc l'ennemi numéro un étant les Kurdes, et puis peut-être l'ennemi numéro 2 étant Bachar el-Assad, il faut malgré tout se rapprocher de la Russie qui est un partenaire incontournable.
Alors que l'esprit ottoman consistait à dire qu'il fallait profiter de l'effondrement de l'Union soviétique pour poser des jalons dans l'espace musulman des ex-républiques soviétiques. Et là aussi, dans sa visite à Poutine, il aurait accepté de retirer ses billes.
Bien sûr, parce que je pense que cette visite à Poutine montre que, malgré tout, Erdogan, par certains moments, est lucide et qu'il se rend compte qu'il n'a plus les moyens de cette politique. Si vous voulez, l'idée d'une politique turque en Asie centrale n'a strictement aucun sens aujourd'hui. Strictement aucun sens. D'ailleurs, les rapports entre les pays d'Asie centrale et la Turquie d'Erdogan n'ont jamais été très faciles. Aller en Azerbaïdjan ou aller en Ouzbékistan, vous verrez que, vous savez, ils ont peut-être de la même groupe culturel des Turcs, ils s'entendent pas si bien que ça.
Dites-moi, il faut une morale dans un volume La Turquie pour les nuls. La Turquie aurait pu être 75 millions d'habitants, une forte croissance, aujourd'hui d'ailleurs. Un pays qui décolle.
Tout à fait. Je crois que, si vous voulez, c'est une tragédie, parce que on voit Mustafa Kemal avait un grand projet. Alors, vous direz, je vais vous dire une chose, la morale, c'est le péché d'orgueil. Il est perdu par le péché d'orgueil. Et je dirais que deux entités vont être perdues par le péché d'orgueil. La Turquie, en croyant qu'elle pouvait entrer dans l'Union européenne, alors qu'elle n'y entrera pas, et l'Union européenne en laissant croire à la Turquie qu'elle pouvait l'accueillir dans l'Union européenne. Et là, il y a aussi un péché grave, une difficulté. Et tout le monde va le payer.
Un idéaliste. Vous ne voyez pas que la croissance turque, Philippe Moreau de Farge, se maintient à un niveau assez élevé, parce que plus il y a de problèmes, plus il y a de trafic, plus il y a d'économie informelle.
Attendez. L'économie informelle, c'est formidable. Il n'empêche que les marchés de la Turquie sont en difficulté. Et ce qui est très intéressant, c'est que les marchés du Moyen-Orient sont quand même très instables pour la Turquie, et que le grand marché de la Turquie, qui reste quand même le marché de l'Union européenne, n'est pas un marché très porteur. Non, si vous voulez, l'avenir de la Turquie est incontestablement très incertain.
Merci à vous, Philippe Moreau de Farge. L'émission était réalisée par Valérie Estaraï. À la technique, Hélène Langlois. La préparation, c'était Frédéric Martin, Franck Olivard et Mathilde Novel. Vous savez de quoi on parle demain? Des Shadocks. Petite géopolitique des Shadocks pour les nuls.
Les Shadocks, c'est nous. Quand j'ai découvert les Shadocks en 68, c'est l'humanité. C'est l'humanité dans son côté absurde, dans son côté de se lancer dans des entreprises absurdes et répétitives. C'est ce personnage extrêmement sympathique. Et c'est nous les Shadocks.
Alors rejoignez-nous demain, Philippe Moreau de Farge.